Alors, c'est une joie pour moi de vous parler ce soir du sujet de l'Église locale. C'est un sujet qui est extrêmement vaste dans le Nouveau Testament. Et puis, c'est vrai que il faut en parler en au moins d'une heure. Donc, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir parler de tout. Et puis, je ne vais surtout pas pouvoir approfondir certaines notions qui seront données comme ça. Donc, un résumé, et vous verrez que tout ce que je dis, et j'espère que vous le contrôlerez, que vous serez comme on ne va pas tous les lire. Je propose qu'on se contente de lire ce soir une dizaine de passages, parce qu'autrement on va passer notre temps à tourner les pages de notre Bible, ce qui est certes très intéressant et très édifiant et très important, mais l'idée c'est aussi de transmettre quelques idées générales. Alors voilà un petit peu sur la méthode, comment est-ce que nous allons procéder. Et puis voici le plan que je vous propose pour ce soir. J'aimerais dire quelques mots de l'importance de l'Église. J'aimerais qu'on parle ensuite, ça permettra de faire le lien un petit peu avec ce que Christian Müller nous a dit la dernière fois sur l'Église universelle. Et puis après, on ira et on discutera un petit peu ensemble de ce que c'est que l'Église locale, de ses 7 missions. Alors on peut en voir 4, on peut en voir 5, 7, voilà, c'est un beau chiffre, donc j'en ai pris 7. Son fonctionnement. Et puis après, on viendra avec quelques questions pratiques. Pourquoi participer à l'Église locale? Et puis finalement, les défis et les opportunités pour l'Église locale et un mot de conclusion. Voilà notre plan ce soir. Et pour commencer, je vous propose que nous puissions lire ensemble quelques versets dans les Éphésiens. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 3 des Éphésiens. Au chapitre 3 et au verset 8. À moi qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée selon le propos des siècles. Et puis, un autre passage au chapitre 5 de la même épître, et puis au verset 25. Marie, aimez vos propres femmes comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle fût sainte et irréprochable. Imaginez, je sais qu'on a un chercheur parmi nous, imaginez un chercheur qui a travaillé toute des années, qu'il se pose la question sur comment résoudre ce problème, comment trouver une application pour telle et telle recherche qu'il a faite, et puis tout d'un coup, peu de temps avant qu'il arrête son travail, il y a un autre chercheur qui vient vers lui et puis qui lui dit « Mais en fait, la solution, ben, je l'ai depuis des années. » Et puis, interloqué, notre premier chercheur se dit « Oui, mais pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé ?»« Ah ben parce que ce n'était pas encore le temps. Maintenant que tu es à la fin de ta carrière, je peux t'en parler. Voilà la solution. » Et puis, il lui présente le plan est le résultat des recherches parallèles qui ont été menées par toute une équipe aussi gigantesque qu'importante. Eh bien, l'Église universelle, frères et sœurs, c'est un mystère qui a été caché pendant tout le temps de l'Ancien Testament, et on ne parle pas là seulement de 20 ou 30 ans, qui a été caché durant tout un temps, et puis qui a été révélé à la fin des temps. Et ça fait vraiment partie du plan de Dieu pour les hommes. son peuple était Israël tout durant l'Ancien Testament. Il reste son peuple. Et puis, finalement, c'est aussi au travers de l'Église que Jésus-Christ va agir dans le monde aujourd'hui d'une manière particulière. Et ce mystère a été caché pendant longtemps. Beaucoup de prophètes n'en savaient rien du tout de ce mystère. Dieu a décidé à un certain moment d'en parler et de le révéler maintenant au début du Nouveau Testament. On le voit dans le verset qu'on a lu dans les Éphésiens, mais on le voit aussi dans les Colossiens. Je rappelle aussi que l'Église ecclésia, le terme qui est utilisé dans le Nouveau Testament en grec, veut dire appelé hors d'eux. Je vous l'ai dit, c'est un mystère caché, révélé maintenant, révélé dans cette période du Nouveau Testament par Jésus-Christ et par les apôtres. C'est un projet de Jésus-Christ. C'est un mystère qui était caché, qui est révélé seulement maintenant. Et c'est un projet de Jésus-Christ. C'est lui qui l'a bâti, il en est le fondement, le chef, il l'a nourri, il l'a chéri. Comme une épouse à son époux. Ça, c'est le projet de Jésus-Christ pour l'Église. C'est non seulement le projet de Jésus-Christ, mais c'est également la réalisation de Jésus-Christ. C'est lui qui a permis à cette Église d'exister, de vivre, d'être là, d'être présente. Elle a été aimée par Jésus-Christ au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. Jésus-Christ a aimé l'Église. Il nous a aimés, chacun d'entre nous, jusqu'au prix de sa propre vie. Ah, on serait peut-être des fois d'accord. Durant des années, quelqu'un chez nous. Mais est-ce qu'on serait d'accord de payer un prix comme celui que Jésus-Christ a payé pour s'acquérir une Église qui soit composée de membres si différents ? Et l'objectif que Jésus-Christ avait en réalisant ce projet, c'était de rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 52. L'objectif de rassembler en un les enfants de Dieu dispersés, mais aussi, 1 Pierre 2, 9, d'être une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voilà donc l'Église. Un projet de Jésus-Christ, une réalisation de Jésus-Christ. Se pose maintenant une question, mais qui est membre de cette Église, finalement ? Alors, tous les humains peuvent en être membres. C'est offert à chacun, Apocalypse 5, 9, de toute tribu et langue et peuple et nation. Il n'y a pas besoin d'être... peut-être dans certains pays, on pense qu'il faut être blanc pour faire partie de l'Église. Dans d'autres pays, on a été, lors de notre voyage de noces en Guadeloupe, en fréquentant une ou deux églises guadeloupéennes, on pensait qu'il fallait plutôt être brun foncé pour faire partie de l'Église. Il n'y avait pas beaucoup d'Européens ou de Français de la métropole qui en faisaient partie. Eh bien, voilà, l'objectif, c'est que tous les humains puissent en être membres. Mais pour cela, il y a une condition, et vous la connaissez comme moi. La condition pour être membre de l'Église, eh bien, c'est d'être né de nouveau. Et puis, comment est-ce que ça se passe, finalement, cette opération qui fait que quelqu'un qui se convertit, quelqu'un qui est né de nouveau, est attaché à l'Église ? À quel moment ? Est-ce que c'est après 10 ans d'expérience dans la vie chrétienne ? À quel moment ça se passe ? Eh bien, 1 Corinthiens 12, 13 nous dit qu'au moment où nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire à la conversion, à ce moment-là, précisément, nous sommes ajoutés au corps de Christ. Alors, l'Église universelle, elle est formée de l'ensemble de tous les croyants, depuis la Pentecôte, le don du Saint-Esprit, jusqu'à un moment qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, qui sera le moment où Jésus-Christ reviendra chercher l'Église. Eh bien voilà, ça c'est l'Église au complet. Que le Seigneur était mort pour eux et qui ont mis leur foi en lui. Je vous propose maintenant de passer à l'Église locale Et je vous invite cette fois à tourner dans 1 Corinthiens. Et là aussi, on va lire quelques versets pour parler de l'aspect local de l'Église. On va commencer avec le premier chapitre. On va simplement lire une part de l'adresse que Paul fait à cette assemblée de Corinthe. Paul, apôtre, appelé de Jésus-Christ, au verset 1, par la volonté de Dieu, et Sosthène, le frère, à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe. L'assemblée de Dieu qui est à Corinthe. C'est ce sur quoi je voulais insister, au chapitre 3 et au verset 11. Car personne ne peut poser d'autres fondements que chacun marche comme le Seigneur le lui a départi, chacun comme Dieu l'a appelé. Et c'est ainsi que j'en ordonne dans toutes les assemblées. Et au chapitre 16 et au verset 19, les assemblées de l'Asie vous saluent, Aquilas et Priscilla avec l'assemblée qui se réunit dans leur maison vous saluent affectueusement dans le Seigneur. Alors, on a parlé de l'Église universelle jusqu'à maintenant. Christian nous en a parlé aussi lors de la dernière réunion de cette série. Et puis maintenant, c'est important de parler de son aspect local, parce que l'Église universelle, eh bien, elle est composée de différentes églises locales. Son existence. Paul, on le voit ici au début des Corinthiens, mais on le voit également au début des Thessaloniciens, il reconnaissait la communauté chrétienne qui se réunissait dans chaque localité en la considérant comme une église locale. Alors ce qui était magnifique dans ce temps-là, c'est comme on en était au début de l'église, eh bien il n'y avait pas l'église évangélique un tel ici, l'assemblée des frères un tel là-bas, l'église baptiste de tel type là-bas, et puis l'église de réveil encore ailleurs dans une autre rue. Non, l'église locale était à ce moment-là constituée de tous les chrétiens de la localité. Ce qui montre que la parole reconnaît la réalité de l'église locale, puisqu'il y a ses adresses particulières à ces différentes églises locales. On peut le voir aussi également au début de l'Apocalypse, où des adresses particulières sont adressées à cette église. L'Église locale, c'est donc tout simplement une expression de l'Église universelle. Son lieu, on peut se poser la question, oui, mais alors, où est-ce qu'une Église doit se réunir pour être une Église? Est-ce qu'il faut absolument un clocher, des cloches, et puis une salle de culte? Comment est-ce qu'il faut que ça soit pour qu'on puisse dire que ça soit une Église? Alors, mentionne volontiers l'anecdote des cloches, puisque vous savez que les milieux des frères ont souvent été appelés dans nos régions les cloches en bois. Eh bien, son lieu, il n'y a pas de lieu physique désigné. Ici, qu'il y avait une assemblée qui se réunissait chez Aquilas et Priscilla. On sait qu'il y en avait une autre qui se réunissait chez Philémon. Il y a plusieurs exemples d'assemblées où on se réunissait chez un croyant ou dans un lieu réservé à cet usage. On le voit également dans les actes, qu'ils avaient des locaux spécialement dédiés à l'Église. Et puis, on a même un exemple avec les frères qui se réunissaient avec Lydie, notamment la marchande de pourpre, au bord du fleuve pour prier, dans la nature. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin pour constituer ou pour être une Église, il n'y a pas besoin d'un bâtiment spécial, il n'y a pas besoin de quelque chose, il n'y a pas de lieu physique désigné pour cela. Et l'histoire de cette assemblée ici est assez intéressante à cet effet, puisque vous savez que quand l'assemblée était constituée, elle a été persécutée, et puis nos frères se réunissaient à la corne en dessous, dans la forêt un petit peu plus bas, dans une espèce de cabane avec un toit en tôle, et puis on nous raconte, d'après les anecdotes qui ont été compilées, que le sachant, les gens du village qui étaient pas favorables à ce nouveau milieu religieux, allaient, surtout les enfants, allaient lancer des cailloux sur les toits en tôle, comme ça, ça faisait du bruit pendant les réunions. Et puis après, on sait aussi que, avant d'avoir un lieu officiel, ils ont eu l'habitude de se réunir dans les caves, parce qu'il y a une autre anecdote qui nous raconte que tel enfant est resté endormi pendant plusieurs heures dans la cave, et puis que ses parents ne s'en sont pas rendus compte et sont allés le rechercher quelques temps après. Donc vous le voyez, même ici, on a vécu ça. Il y a bien des années en arrière, j'en conviens, où les gens se réunissaient dans la nature, se sont réunis dans une cave, et puis maintenant, on a la chance d'avoir un bâtiment où on peut le faire en toute liberté, c'est parfait. On remercie le Seigneur pour cela. Son fondement, alors c'est Christ, la maîtresse Pierre du coin, et puis l'église locale, c'est aussi l'occasion de vivre la présence de Jésus-Christ. Les croyants réunis peuvent compter que Jésus met sa promesse à exécution pour ceux qui sont réunis à ou vers son nom. L'Église, elle est même la plénitude de celui qu'il remplit dans sa présence, de sa présence. L'Église est le lieu où nous pouvons vivre la présence du Seigneur Jésus d'une manière particulière. Sa présence est promise à ceux qui sont réunis autour de lui, à son nom, vers son nom, qui se sont rassemblés. Hein, ça revient à... On a les enfants de Dieu dispersés, les rassembler autour de quoi ? Les rassembler autour de qui ? Autour d'une étiquette religieuse pas quelconque ? Autour d'un pasteur brillant ? Autour d'un groupe de louanges fantastiques ? Non, autour d'une personne et d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est l'occasion, quand on est réunis, de pouvoir sentir, de pouvoir vivre ensemble cette présence de Jésus-Christ. Alors, on arrive maintenant sur le morceau de résistance de ce soir, qui sont les sept missions de l'Église locale. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles à nouveau, et puis à lire deux passages, cette fois-ci dans le livre des Actes. Alors évidemment, c'est immanquable que je parle de Acte 2, au verset 42. Acte 2, verset 42. « Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Et toute âme avait de la crainte. Et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Et tous les croyants étaient en un même lieu, et ils avaient toutes choses communes. Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les distribuaient à tous, selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin. » Au chapitre 11... Et au verset 26, « Et l'ayant trouvé, il le mena... Oh, » on va lire au verset 25 pour bien comprendre. « Et il s'en alla à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il le mena à Antioche. Et il leur arriva que pendant un an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule. Et que ce fut à Antioche, premièrement, que les disciples furent nommés chrétiens, littéralement « petit Christ ». Alors ça peut être... comme une insulte, mais je trouve que c'est magnifique de se faire nommer chrétien, petit Christ. Ben ça veut dire que les gens d'Antioche ont pu distinguer qu'au travers des croyants, eh bien, il y avait la personne de Jésus-Christ, et c'est bien ça aussi l'objectif de notre témoignage. Alors, quelles sont les sept missions de l'Église locale ? On va commencer par celle de l'enseignement. Et puis, j'aime bien rappeler que l'enseignement a pour but, pas de remplir nos têtes seulement. Bien sûr, c'est important d'avoir notre esprit formé à la manière de penser de Dieu et à connaître ses pensées et sa vision sur l'Église, notamment. Mais pas seulement. Elle a pour but de l'équiper, lui donner des outils, de lui donner de quoi se préparer en vue des bonnes œuvres que le croyant pourra ainsi accomplir. Et que Dieu placera sur son chemin. Ça me paraît tellement important de bien insister sur le fait que cet enseignement, il a un objectif. L'objectif est bien sûr de nous donner les pensées de Dieu pour qu'elles soient bien dans nos têtes, mais l'objectif dépasse nos têtes seules. L'objectif, c'est de nous former, c'est de nous équiper, c'est de nous préparer pour que nous puissions ainsi marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Et je ne résiste pas à la lecture de ce verset de 2 Timothée, ô combien important. De Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Ah voilà, on s'arrête souvent là. Mais la suite, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli, préparé pour toute bonne œuvre. » Voilà l'objectif de l'enseignement. Frères et sœurs, est-ce que l'enseignement dans nos assemblées conduit à réaliser cet objectif-là? Eh bien, soyons bibliques et cherchons à avoir un enseignement qui poursuit ce but. Mais aussi, la croissance spirituelle du croyant, on le voit en Colossiens 1, 28. L'équipement du croyant, sa croissance spirituelle, voilà deux objectifs de l'enseignement. J'aimerais parler aussi de deux aspects de l'enseignement. Il y a deux ministères qu'il est important de différencier. Il y a le ministère du docteur. Le ministère du docteur, c'est un enseignement systématique de la parole de Dieu. Un enseignement systématique tel qu'on le vit ici, des principales doctrines de la parole de Dieu, une fois par mois. Un enseignement systématique aussi qui touche évidemment les différents livres de la Bible pour qu'on comprenne bien la pensée de Dieu et pour qu'on comprenne bien sa parole. Paul l'a pratiqué, on l'a lu, à Antioche durant une année, où il a enseigné durant une année, et à Corinthe, il l'a fait durant une année et demie, à Éphèse même, durant 3 ans. Donc, cet enseignement systématique a été, au début de l'Église, un élément clé pour que les communautés s'établissent, pour qu'elles soient fondées dans la parole de Dieu et pour qu'elles puissent croître. Est-ce que l'enseignement systématique fait partie aujourd'hui aussi toujours de la priorité de nos vies d'assemblée? Parce que c'est vrai qu'on n'est peut-être pas au début, comme l'étaient ces communautés, et puis on croit que les choses sont acquises. Et puis force est de constater, si vous faites les mêmes constats que moi, que c'est quand on pense que c'est acquis, qu'au contraire, il faut revenir régulièrement avec les choses de base. Et je suis convaincu que les plus âgés d'entre nous diront que même si c'est peut-être la 5e ou 6e, voire même la 30e ou 40e fois qu'ils entendent telle ou telle chose, eh bien ça leur fait aussi toujours du bien de se rappeler les choses fondamentales de la foi. De rentendre, par exemple, le salut prêché, c'est toujours aussi bienfaisant. Et puis après, il y a le ministère du prophète qui est un peu différent. Et je crois que aussi dans nos assemblées, on a des frères qui ont des caractéristiques, les uns plutôt de docteurs et puis d'autres plutôt de prophètes. Le prophète, il a, lui, comme caractéristique, l'encouragement, l'exhortation, l'édification et la consolation des croyants. Il le fait en communiquant un message de la part de Dieu pour tous et en appliquant la parole de Dieu aux circonstances et aux besoins qui sont présents dans l'assemblée locale. J'aimerais encore préciser que, selon Osée 4, 6, le peuple se meurt faute de connaissance. Et en observant l'Église en Occident, je peux faire ce constat. Le peuple se meurt faute de connaissance. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons être forts et agir, connaître la parole de Dieu, connaître Dieu qui se révèle au travers d'elle? Voilà le premier objectif, la première mission de l'Église locale. La deuxième, la communion fraternelle. Les chrétiens sont appelés à vivre les uns avec les autres. La communion, elle se réalise parce qu'on fait partie de la même famille, parce que on se connaît bien, parce qu'on chante dans les mêmes cantiques. Non, la communion, elle se réalise grâce au Saint-Esprit. Et parce que, d'abord, chacun d'entre nous est en relation avec Dieu et avec Jésus-Christ, son Fils. Elle se manifeste concrètement, cette communion, quand il y a un partage, un vécu, une pensée, un intérêt, une joie ou même une souffrance partagée. Romains 12, verset 5, que je vous propose de lire ensemble. Romains 12, 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Au verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà aussi une manière de vivre ensemble la communion, d'échanger entre nous, de partager nos peines et nos joies, nos difficultés, de partager un vécu, une pensée, de partager peut-être quelque chose que l'on a compris dans la parole de Dieu, qu'on est tout content, tout fier, tout heureux d'avoir découvert, de le partager avec nos frères et sœurs. Ce partage est tellement important. Vous savez, quand cette assemblée ici a connu des difficultés, je me rappelle toujours très bien que le temps moyen entre le moment où on sortait du local et puis les gens partaient chez eux, c'était au maximum 10 minutes. Parce que les gens n'avaient rien à se dire si ce n'était peut-être des choses pas toujours adéquates. Donc, et j'ai vécu aussi une fois dans une assemblée, plusieurs mois en Allemagne, dans une assemblée où lorsque on y allait, tout le monde était là 20 minutes à l'avance, mais on allait s'asseoir et puis on se taisait. Et puis quand le culte était fini, mais en 4-5 minutes, c'était une assemblée de 300 personnes, en 4-5 minutes, il n'y avait plus personne. Et puis moi qui étais jeune, qui voulais m'intégrer, qui voulais essayer de connaître, ben, ce n'était pas tellement possible. Voilà, c'est des expériences que je vous partage. Et je suis convaincu que la communion fraternelle est un élément absolument important aussi de la mission de l'Église et que l'on a peut-être parfois, dans certaines circonstances bien compréhensibles, parfois un peu négligé, et que nous autres, Vaudois, devons peut-être un peu plus apprendre à vivre. La fraction du pain, la troisième chose, la fraction du pain. Alors, je ne vais pas trop insister là-dessus parce qu'il en sera parlé prochainement par Daniel Sofferer. J'aimerais juste dire que c'est une institution du Seigneur. C'est le Seigneur qui a institué ce mémorial. C'est un ordre du Seigneur, des impératifs, prenez, mangez, buvez, faites. C'est un souvenir du Seigneur, en mémoire de moi. C'est une proclamation de l'œuvre du Seigneur, vous annoncez. C'est une affirmation de notre espérance, parce que c'est jusqu'à ce que je vienne. Et c'est une responsabilité personnelle et collective. La quatrième mission de l'Église, c'est la prière. Et j'aimerais lire avec vous Éphésiens 6, 18. Priez. Par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'Esprit, et veillez à cela avec toute persévérance. Faites des supplications en faveur de tous les saints. Alors, le thème de la prière est vaste. Il n'y a pas forcément énormément d'exemples d'assemblées en prière dans les actes et dans les épîtres, quoique, ce qui fait que j'aimerais prendre aussi quelques éléments en général sur la prière pour ce point-là. Je vois quelques conditions essentielles. Les prières sont adressées au nom du Seigneur Jésus. Elles sont adressées en accord avec la volonté de Dieu. Elles sont adressées également avec droiture de cœur et intégrité. Les prières, c'est pas juste quelque chose qui nous tombe comme ça dessus, une espèce de chose extrêmement spirituelle que seuls certains, auxquels seuls certains auraient accès. Non, la parole de Dieu nous invite à prier avec l'esprit. Nous sommes corps, âme, esprit, une partie qui communique avec Dieu, l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. On peut utiliser notre intelligence, frères et sœurs, c'est pas exclu d'utiliser notre intelligence pour la prière. Et puis, en accord les uns avec les autres. La communion dans l'assemblée est extrêmement importante lorsque nous sommes réunis pour une réunion de prière, pour demander ensemble, en accord les uns avec les autres, quelque chose à Dieu. Différentes prières, et j'aimerais, je vais en citer quelques-unes, c'est de loin pas l'entier, mais c'est celle qui me semblait particulièrement importante dans le cadre de la vie de l'Assemblée. Il y a la demande ou la requête. Qu'est-ce que c'est que la demande ou la requête? C'est la prière par laquelle nous exposons nos besoins, demandons à Dieu ce qui nous fait défaut. On se rend compte qu'on a un manque. Par exemple, on est dans une assemblée où il manque quelqu'un pour s'occuper de l'école du dimanche. Et puis on a fait des appels et puis personne s'annonce. Alors ben, on prie pour cela, ensemble. Le combat. Prière par laquelle nous engageons une lutte, par exemple, pour l'évangile, contre les puissances des ténèbres. Frères et sœurs, notre combat n'est pas contre... On va lire Ephésiens 6, 12, parce qu'après je vais le citer de travers... Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'était avant le verset 18 où nous étions exhortés de prier par toutes sortes de prières. Oui, il y a un combat qui se mène. Il y a un combat qui se mène pour l'Évangile. Moi, j'ai toujours été frappé lorsque... nous allons vivre le camp l'été, par exemple, avec l'association Repère, ou lorsque nous préparons un concert avec la chorale psalmodie. Quand vous êtes engagé dans la proclamation de l'Évangile, et d'autres pourraient certainement mieux en parler que moi ici, bien, vous sentez, il y a un combat. Il y a un combat qui se mène. Et frères et sœurs, ce combat requiert de notre part la prière. Est-ce que nous sommes engagés dans cette lutte? Et je pense particulièrement à une lutte aujourd'hui, dans notre Occident, dans notre région. Une lutte particulière, c'est celle des couples. Est-ce que nous prions pour les couples? Est-ce que nous prions pour les situations dont nous avons connaissance où il y a des difficultés? Est-ce que nous sommes engagés pour cela? C'est un combat dans la prière aussi. Et pour ce thème-là, un combat paraît nécessaire. Nous engageons une lutte pour l'Évangile, contre la puissance des ténèbres. L'intercession, c'est la prière en faveur d'autrui. L'apôtre Pierre en a bénéficié, lui qui était retenu en prison. Eh bien, l'Assemblée s'est réunie, a prié pour lui, et on sait ce qu'il est arrivé. Il a pu sortir de la prison de manière miraculeuse. L'action de grâce, un terme qu'on utilise, qui fait peut-être un petit peu vieillot, diront certains, c'est une prière par laquelle nous exprimons notre reconnaissance à Dieu, car tout est fruit de sa pure grâce. Il y a aussi la louange, c'est une prière par laquelle nous faisons l'éloge d'une personne. Elle s'exprime peut-être d'une manière particulière par le chant. L'adoration, prière par laquelle nous rendons culte à Dieu. Et enfin, l'exaltation, peut-être quelque chose qu'on a moins l'habitude, une prière par laquelle nous portons très haut une personne. Voilà les prières que nous pouvons adresser ensemble à Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Nous arrivons donc à notre cinquième point, cinquième mission de l'Église locale, qui est l'adoration. Et pour cela, je vous invite à lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, et au verset 23. C'est donc Jésus qui parle. « Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qui l'adorent. » L'adoration, c'est donc notre réponse à celui qui cherche des adorateurs. Et comment se fait cette adoration? C'est certainement quelque chose que vous avez souvent entendu en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ici, en esprit, n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Il est fait allusion à l'esprit humain. Le terme grec utilisé fait référence à l'esprit humain. Jésus veut souligner qu'il n'est pas question d'une adoration où on se contente de respecter extérieurement des rituels ou des sites religieux, en se rendant par exemple au temple, mais d'une adoration intérieure qui correspond à l'attitude de cœur appropriée. Adorer en esprit, adorer en vérité. Cette adoration, elle doit être cohérente avec la révélation des Écritures et centrée sur la parole faite chair qui a révélé de façon suprême Dieu le Père. L'adoration doit être cohérente avec la révélation des Écritures, centrée sur Jésus-Christ. Alors, c'est sûr, quand on parle d'adoration, on pense au culte d'adoration tel que nous avons l'habitude de les avoir dans nos assemblées, qui sont une part de l'adoration. Mais frères et sœurs, restreindre l'adoration au seul culte de l'adoration, ça serait un grand danger. Il y a d'autres manières d'adorer Dieu. Ce que nous mettons dans la collecte, ce qui est fait chaque dimanche, c'est une part de notre adoration, c'est une manière d'adorer Dieu. Le temps que nous donnons à Dieu, nos corps, nos biens, c'est une manière aussi, le fruit des lèvres qui confessent son nom, le temps que nous donnons à Dieu, ce que nous mettons à disposition de Dieu, notre personne aussi, c'est un sacrifice vivant que nous pouvons donner à Dieu, et c'est aussi cela l'adoration. Donc l'adoration est souvent comprise comme étant uniquement les moments de culte que nous pouvons avoir, qui sont importants, parce qu'ils nous permettent ensemble de répondre à cette demande de Dieu qui recherche des adorateurs, mais ce n'est pas l'unique et seul moyen d'adorer Dieu, c'est beaucoup plus vaste. L'adoration de Dieu, c'est aussi nous consacrer nous-mêmes à Dieu, nous remettre entre ses mains, lui faire part de nos biens, lui donner notre temps, le servir. Ça, c'est aussi l'adoration. C'est donc aussi une réponse commune, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Une sixième mission ô combien importante également de l'Église locale. Alors, je sais que dans les assemblées, historiquement, on a dit des choses comme « l'assemblée n'évangélise pas ». Alors, c'est vraiment tiré par les cheveux, parce que si on lit les commandements du Seigneur lui-même et sa dernière parole, ô combien importante, la grande mission, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les, enseignez-les. Eh bien, frères et sœurs, nous comprenons que c'est notre responsabilité, certes, en tant qu'individu, mais c'est également notre responsabilité comme Église locale. La lumière et la vérité doivent être visibles. On doit les voir. Ça doit être vu. Luc 8, verset 16, nous dit qu'une lampe ne se met pas sous un bocal, sous un seau, afin qu'on ne la voie pas. Et puis 1 Timothée 3, verset 15, nous dit que l'Église, l'Assemblée, est la colonne et le soutien de la vérité. Colonne, c'est haut. Ça soutient la vérité, qui est encore plus haut, qui est en-dessus de la colonne, pour que ça se voie. Et là, nous avons une responsabilité particulière de faire briller cette lumière, Jésus-Christ lui-même qui est la lumière, de la faire briller comme Église locale, de la faire voir à d'autres et de ne pas la cacher. Alors bien sûr, il y a des endroits dans le monde où c'est dangereux de parler de Jésus-Christ et on comprend très bien que ces chrétiens là soient discrets. Mais nous n'avons aucune raison d'être discrets quant à l'Évangile, d'être discrets quant à la personne de Jésus-Christ, quant à ce qu'elle nous a apporté et quant à la vérité qui est soutenue, qui est appelée à être soutenue par l'Église, par l'Assemblée, une vérité qui doit se voir bien haut, en haut de la colonne. J'aime beaucoup le texte aussi qu'on ne va pas lire d'Actes 13, versets 1 à 4, où on voit, c'est les débuts de l'Assemblée d'Antioche, et puis on voit que les frères responsables de cette Assemblée sont réunis, et puis ils prient pour savoir qui c'est qu'ils doivent envoyer. Ils prient même et ils jeûnent, parce qu'ils ont à cœur d'envoyer quelqu'un pour la mission. Et on voit bien par ce verset-là que c'est aussi un exercice de l'Église locale. Est-ce que l'évangélisation, est-ce que la mission sont un exercice de nos assemblées, un exercice que nous portons dans la prière? Nous savons qu'il y a un besoin, et puis nous, comme ces frères du début, nous prions, nous portons avec un exercice important ce qu'indique le jeûne, le fait qu'il y a des besoins et qu'il faut envoyer quelqu'un, et puis qu'on a besoin de discernement pour savoir qui envoyer. Voilà donc une responsabilité, un exercice de l'Église locale. Et puis finalement, le septième point, le service. C'est une priorité. 1 Corinthiens 7, verset 35 nous dit « Pour que vous vaquiez au service du Seigneur sans distraction. » Ce service se déploie en faveur des saints, nous dit Romains 15, 25, puis pour des situations particulières parfois. Il est parlé notamment dans Jacques 1, 27 des veuves et des orphelins. Le service, il se fait évidemment pour chacun d'entre nous, pour les saints, pour tous ceux qui sont des croyants, mais il y a des situations particulières qui nécessitent une attention soutenue, et les gens dans l'Église primitive qui souffraient particulièrement de conditions économiques difficiles parce que le pilier de la famille était décédé, c'était les veuves et les orphelins. Et l'Église déployait un service particulier en faveur de ceux-ci. L'Église locale doit aussi être une communauté capable d'apporter une aide spirituelle. On le voit par exemple dans Galates 6 au début, une aide sociale, une aide financière, lorsque cela est nécessaire. Et enfin, un point tellement important, la vie de l'Église, j'espère avec tout ce que nous avons vu, vous le constatez, ne s'arrête pas aux réunions que nous avons entre ces quatre murs, ou entre les quatre murs de l'Assemblée Sertine ou à Valorbe. C'est beaucoup plus vaste. On l'a vu par cette mission. J'aimerais parler maintenant du fonctionnement de l'Église locale. L'autorité dans l'Église locale. Bonne nouvelle, le corps a une tête. Et cette tête, vous le savez, c'est Jésus-Christ, chef de l'Église. Tous sont tenus de reconnaître et de respecter cette autorité. Vous savez aussi que nos membres, quand ils bougent, nos doigts, ils répondent à une sollicitation de la tête. Donc c'est important que le membre soit relié à la tête et dépende de la tête Jésus-Christ. C'est notre responsabilité à chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit, il anime et équipe le croyant. Chacun d'entre nous qui sommes croyants sont ont reçu le Saint-Esprit, sont animés par le Saint-Esprit et équipés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit aussi l'action dans l'Église, dans l'Assemblée. Alors, par rapport à cela, ça nécessite que ceux qui ont cette responsabilité d'enseigner, de prier, d'indiquer des cantiques, de donner une exhortation, eh bien, soient particulièrement à l'écoute du Saint-Esprit et puis soient aussi préparés, parce que action de l'Esprit ne veut pas dire improvisation non plus. Alors bien sûr, il y a de la place pour la spontanéité, mais tout ce qui peut être, notamment dans le cadre de l'enseignement, on le sait bien qu'on ne va pas méditer sur un texte si on ne l'a jamais avant étudié. Et c'est important aussi à souligner. L'action de l'Esprit conduit à un climat de liberté. Ce climat de liberté, il doit être ressenti par tous ceux qui sont présents. Mais ce climat respecte l'ordre et l'autorité établis par Dieu et la liberté de l'autre. On sait que dans le texte de 1 Corinthiens 8, versets 9 et 11, il nous est dit « La liberté ne doit pas être une pierre d'achoppement pour les faibles. » On ne doit pas l'utiliser comme une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc c'est une responsabilité d'utiliser aussi cette liberté intelligemment, en tenant compte des sensibilités des uns et des autres et en se respectant. Dans notre chapitre sur le fonctionnement de l'Église locale, nous en venons maintenant aux charges. Et l'une des charges que la parole mentionne, c'est les anciens. Les anciens, nous dit la parole, il y en a dans chaque ville, dans chaque église. Partout, là où il y a un témoignage, il y a des anciens. On pourrait se poser la question, mais quel est leur rôle ? Leur rôle aux anciens, c'est de veiller sur les âmes, Hébreux 13, 17. C'est d'avertir, 1 Thessaloniciens 5, 12. De persévérer dans la prière et le service de la parole, Actes 6, 4. Et puis finalement, d'être des modèles, des bergers, 1 Pierre 5, 1 à 3. On pourrait se poser aussi la question, mais quelles sont leurs caractéristiques ? Et on voit deux passages dans 1 Timothée 3 au verset 1 à 7 et Tite 1, 6 à 9, où des critères nous sont donnés pour permettre à l'assemblée, aux frères et sœurs d'une assemblée, de reconnaître ceux qui parmi eux ont cette caractéristique d'anciens. Le point finalement, c'est comment est-ce que les anciens sont désignés ? Acte 20, verset 28, nous éclaire et nous dit que les anciens sont établi par le Saint-Esprit. Et je vous propose qu'on lise ce verset de Actes 20, 28. Nous lisons donc Actes 20, verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel, qui ça, l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'Assemblée de Dieu. » Ce verset nous montre et nous prouve donc que dans une assemblée, c'est le Saint-Esprit qui établit les anciens. La responsabilité de l'assemblée, c'est de connaître ceux qui ont ces caractéristiques. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Il s'agit donc d'un exercice spirituel. Pour désigner les anciens, il ne s'agit ni d'une élection, ni d'une prise de pouvoir, mais d'une conviction partagée, sous la conduite du Seigneur, après avoir prié et jeûné. Et frères et sœurs, c'est vrai que cette charge d'ancien parmi nous n'a pas toujours été reconnue à juste titre. Nous avons été passablement influencés par les écrits de Darby, qui, il faut le savoir, était lui extrêmement sceptique par rapport à toute hiérarchie ou toute organisation de l'Église. C'est sûr que lui venait de l'Église anglicane. Ayant vu la corruption de cette Église, il a par ailleurs certainement surréagi à cela. Il y a cependant un danger à ne pas connaître ou reconnaître ses anciens. Et ici, j'aimerais vous lire une citation de Pierre-Étienne Pfister de son livre sur l'Église. À défaut d'identifier clairement ceux qui sont qualifiés pour cette charge, l'Assemblée risque de constater que d'autres, ne satisfaisant pas les conditions, s'attribuent ce rôle. Certains peuvent même aller jusqu'à intervenir dans la vie d'autres assemblées qui ne sont pas protégées par un groupe d'anciens reconnus. Frères et sœurs, cela est solennel et je nous invite à réfléchir spirituellement à cette question des anciens. Il y a ensuite les diacres. C'est une deuxième charge. Leur rôle est plutôt concentré sur des tâches pratiques et d'organisation. On le voit notamment en Actes 6, versets 1 à 7, où il fallait des personnes pour distribuer la nourriture aux veuves. Et c'est les diacres qui ont été chargés de ces questions concrètes. Leurs caractéristiques, on voit aussi qu'ils doivent avoir des caractéristiques, des critères sont émis. On voit en 1 Timothée 3, versets 8 à 13. Et en particulier, il est demandé que leur ministère doit être éprouvé. Ils ne doivent pas être jeunes convertis. J'en viens dans notre point sur le fonctionnement de l'Église locale, maintenant au sacerdoce universel. 1 Pierre 2, verset 5, nous rappelle que tous les croyants sont des sacrificateurs. Et puis, lors des rencontres publiques, les frères sont appelés à être les porte-parole de l'Assemblée, en application littérale de 1 Corinthiens 4, 14, versets 26 et 40. C'est vrai que cette question est aujourd'hui relativement contestée dans les milieux évangéliques. J'aimerais attirer votre attention sur l'adresse de l'Épître aux Corinthiens qui nous montre à quel point c'était une lettre, pas seulement destinée à Corinthe, c'était une lettre circulaire destinée à de nombreux lecteurs. Et je lis cette adresse dans 1 Corinthiens 1. Paul, apôtre, appelé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Sosthène, le frère, à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit donc la portée de cette épître qui dépasse Corinthe seule. Et dans le contexte de 1 Corinthiens 14, on voit aussi quelques éléments qui sont relativement intéressants. Verset 33, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. » On voit donc la portée universelle de cet enseignement. Et puis au verset 37, qui encadre ce fameux verset 34, « Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qui reconnaisse que les choses que je vous écris sont un commandement du Seigneur. » Et pour terminer ce chapitre sur l'encouragement... Sur le fonctionnement de l'Église locale, j'aimerais venir maintenant, c'est mon dernier point, à l'encouragement et la pratique des dons. Nous allons lire Éphésiens 4, verset 11, qui nous dit « Lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. » Frères et sœurs, les dons sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour la croissance du corps. Il est important que chaque croyant utilise son don, le mette en pratique pour que l'organisme, l'Église, le corps puisse continuer à grandir. 1 Corinthiens 12, versets 7 et 11 nous rappelle que chacun d'entre nous a reçu un don. C'est régulier, malheureusement, lorsque je rencontre des plus jeunes ou lorsque je vais dans une assemblée ou une autre, que plusieurs frères et sœurs pensent n'avoir rien reçu. La parole de Dieu est formelle, elle nous rappelle que chacun d'entre nous a reçu un don. Et chaque partie doit fournir sa mesure pour l'accroissement du corps. 1 Corinthiens 12, verset 31 nous rappelle de désirer avec ardeur des dons, nous encourage aussi à les utiliser. C'est une responsabilité des plus âgés et des anciens en particulier d'encourager les plus jeunes à utiliser leurs dons et à le découvrir. J'arrive maintenant à mon point 5 de cet exposé Et je vous propose de réfléchir à quelques questions très pratiques maintenant et répondre à cette question finalement, pourquoi participer à l'église locale? Je crois l'avoir dit en début de rencontre, c'est tout simplement premièrement pour entrer dans le projet de Dieu pour l'homme. Celui qui souhaitait rassembler en un les enfants de Dieu dispersés, qui souhaitait les réunir et former une église, eh bien, participer à l'église locale, c'est entrer dans le projet de Dieu pour l'homme. C'est aussi répondre positivement à l'invitation de celui qui cherche des adorateurs. Nous avons lu Jean au chapitre 4 et nous voyons ce désir de Dieu de chercher des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Notre participation à une église locale est une réponse positive à l'invitation de celui qui cherche ses adorateurs. C'est aussi l'occasion de vivre la présence du Seigneur Jésus avec des frères et sœurs. Frères et sœurs, quel bonheur quand nous sommes réunis de pouvoir être certains que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, eh bien le Seigneur Jésus est présent au milieu de nous. Et participer à l'église locale, c'est vivre cette présence du Seigneur Jésus ensemble, avec des frères et sœurs, ne pas rester seul dans son coin, mais vivre cette présence du Seigneur Jésus avec d'autres frères et sœurs. Vivre l'église locale, participer à l'église locale, c'est aussi la possibilité d'être enseigné et encouragé dans sa foi. J'ai souvent remarqué qu'il y avait des personnes ici et là qui avaient parfois des pensées qui étaient assez hétéroclites et puis même carrément parfois surprenantes. Et lorsque je leur posais la question si elles faisaient partie d'une église locale, elles me disaient non. Et c'est vrai que nous avons besoin pour vraiment comprendre la parole de Dieu, pour qu'elle nous soit expliquée, d'être avec d'autres croyants qui enrichissent aussi nos propres pensées, qui enrichissent notre compréhension des Écritures. Nous avons besoin aussi d'être enseignés par des docteurs et encouragés dans notre foi par la présence d'autres frères et sœurs, par les partages. Et j'en viens au dernier point. Pourquoi participer à l'église locale? Finalement, c'est pour partager ensemble nos joies et nos peines. Pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Voilà aussi l'objectif et le but de l'église locale. Nous sommes maintenant au point 6 et j'aimerais avec vous que nous réfléchissions et que nous voyons maintenant pour chacune des propositions qui vont suivre un défi et une opportunité pour l'église locale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'église locale subit les attaques de Satan, comme hier du reste, et d'une manière particulière se présente à nous, chrétiens occidentaux de notre siècle, des défis relativement importants. Et plutôt que seulement voir les choses du côté plutôt négatif, je vous invite aussi à voir dans chaque défi une opportunité. Le premier défi, la première opportunité pour nous, c'est l'encouragement à la pratique de la sainteté plutôt que le relâchement dans les mœurs. L'église locale, frères et sœurs, doit être le lieu où nous sommes encouragés à vivre une vie sainte avec nos frères et sœurs plutôt qu'à relâcher les mœurs. Et c'est vrai, quand je vois aujourd'hui, ici et là, des drames dans les familles, des adultères, des tromperies, je me rends compte à quel point nous avons besoin de nous tenir les coudes, de nous encourager à pratiquer la sainteté, à respecter le lien du mariage. Et pas seulement pour le mariage, mais aussi quant à nos pensées, quant à tout ce qui nous concerne, frères et sœurs, quant à notre vie, quant à ce que nous regardons, ce que nous écoutons, chercher à pratiquer la sainteté plutôt qu'à être lâché dans nos mœurs. Un ancrage déterminé dans la parole de Dieu plutôt que du ballottage ça et là. En entendant une fois une prédication d'un tel qui dit ci, puis d'un tel qui dit ça, puis d'un autre qui dit encore ça, et puis on va voir sur 26 000 sites à la fois, et puis certains sont de telle tendance, et les gens sont complètement emmêlés. Ils ne savent plus ce qu'il faut penser sur tel et tel sujet. Un ancrage déterminé dans la parole de Dieu plutôt que du ballottage ça et là. Des cœurs transformés, vivre ensemble et voir des cœurs transformés plutôt que des comportements religieux. Du sel hors du bocal plutôt que dans le bocal. Nous sommes appelés à être ce sel de la terre. Et si nous restons tout le temps dans le bocal, c'est-à-dire dans le local, eh bien comment est-ce que la terre aura-t-elle sa saveur ? Notre responsabilité d'être aussi, nous ne sommes pas du monde, mais d'être dans le monde, et d'y apporter l'évangile. Une vision complémentaire du rôle de l'homme et de la femme plutôt qu'égalitarienne. Alors là, je deviens un petit peu technique, mais aujourd'hui, il y a un énorme débat qui touchait d'abord les églises protestantes, qui est en train de toucher les églises évangéliques, où on se pose la question du rôle de l'homme et de la femme, non seulement dans l'église, mais ça va beaucoup plus profond, ça touche le rôle de l'homme et de la femme dans le cadre du couple, et puis où on se demande finalement, plusieurs discutent de cela. Alors, la position égalitarienne, elle dit que l'homme et la femme sont interchangeables. Ce qui veut dire, si je pousse plus loin, ça veut dire que finalement un homme pourrait être enceint, c'est à ce à quoi certaines personnes aimeraient arriver dans notre société, tous ceux qui soutiennent la théorie du genre, etc. Et c'est ce à quoi ils aimeraient arriver, et puis finalement à faire une interchangeabilité entre l'homme et la femme. Frères et sœurs, pour ce qui me concerne, en étudiant la parole de Dieu, l'homme et la femme sont égaux, c'est clair, en position. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni grec, ni juif. Mais ça, ce verset a à voir avec notre position. En Christ, nous sommes égaux. Par contre, on voit que chaque fois qu'il est parlé, par exemple, de la soumission de la femme par rapport à l'homme dans le couple, chaque fois, il est fait référence à l'ordre créationnel. Ça n'a rien à voir avec le contexte d'une époque. Ça a à voir avec l'ordre créationnel. Et Dieu nous a créés égaux, mais différents. Chacun avec des tâches dans le cadre du couple, dans le cadre de la famille, qui sont là pour être complémentaires. Et on sait très bien, des études ont été menées, notamment aux États-Unis, pour des enfants qui ont été élevés par des couples homosexuels ou gays. Eh bien, on sait que, et il y a encore eu un témoignage il n'y a pas longtemps, ceux qui sont sur Facebook, allez voir ma page Facebook, vous verrez de quel témoignage il s'agit, d'une femme qui a été élevée par deux femmes et qui témoigne de la déconstruction que cela a eue en elle. Elle n'est pas chrétienne, et pourtant elle le dit. L'importance des qualités des uns, de l'une, et les qualités de l'autre, ces différences, l'importance de cette complémentarité, notamment dans le cadre de l'éducation des enfants, dans le couple, dans la famille, mais aussi dans l'Église. Une communauté avec jeunes et vieux qui cohabitent ensemble, c'est un défi. Est-ce que nous cherchons à remplir ce défi, à continuer à vivre avec des communautés où il y a à la fois des jeunes et des vieux qui cohabitent ensemble plutôt qu'une Église ? Grande tendance actuelle, stratifiée par génération. Celle-ci, où il y a une vieille Bible toute poussiéreuse sur la table qui est au milieu du local, et puis celle-là, où on ne voit même pas le prédicateur, tellement il y a de light show et de musique et de bruit qui nous arrive contre. Frères et sœurs, je crois que c'est un défi aujourd'hui de chercher à vivre dans l'Église entre jeunes et vieux, à cohabiter ensemble. Ça veut dire que les uns doivent faire des efforts, les autres également. Ce n'est pas toujours dans une seule direction. Ça veut dire que peut-être, comme personnes âgées, il y a certaines évolutions, notamment au niveau des formes, qui plairont peut-être pas toujours. La nouvelle génération s'exprime différemment. Elle a eu l'habitude de cantiques différents. Eh bien, cela fait partie, par exemple, de ce que les plus anciens doivent parfois accepter. De la même manière, les plus jeunes, eh bien, ils n'auraient peut-être pas toujours envie de chanter tous les dimanches dans les hymnes et cantiques, ou bien de faire ceci, de faire cela, d'être astreint à tel et tel type de forme. Eh bien, voilà, c'est des efforts que nous faisons les uns vis-à-vis des autres, parce que nous sommes convaincus que le projet de Dieu pour l'Église, eh bien, c'est une église où toutes les générations sont représentées. Il y a l'excellent exemple du peuple, lorsqu'il y a la dédicace du temple, où on sait que non seulement les plus âgés étaient là, mais également les plus jeunes. Et puis, la chaleur d'un accueil fraternel plutôt que la froideur d'habitudes immuables. Et enfin, une vision de l'œuvre et du service par l'Église locale plutôt qu'à côté de l'Église. Parce que souvent, malheureusement, les églises étaient parfois endormies. Et puis quand on avait un projet pour dire quelque chose d'évangélisation, on ne pouvait pas le faire dans le cadre de l'Église, puisque certains frères disaient ben, « l'Église n'évangélise pas, donc non, rien à faire ». Et puis alors ça a conduit au développement de multiples œuvres parallèles, associations et autres, qui ne sont pas forcément mauvaises en tant que telles, mais qui ont remplacé l'Église locale, qui est le projet de Dieu. Moi, j'ai rien contre les missions, par exemple. J'ai rien contre la chorale psalmodie ou des choses comme ça. Mais dans l'idéal, et puis ce n'est pas toujours possible, toutes ces choses-là devraient dépendre d'églises locales. Regardez dans les Actes, dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, la base de l'organisation, si j'ose dire, de l'Église, c'est l'Église locale. Toutes les activités partaient de l'Église locale. Aujourd'hui, pour différentes raisons, malheureusement, l'Église locale a souvent perdu de sa place par rapport à d'autres œuvres. J'en arrive à la conclusion de cet exposé, où je souhaite que chacun d'entre nous reçoive un encouragement personnel, et j'aimerais vous adresser quelques questions, quelques défis, pour que vous puissiez appliquer à votre vie personnelle, votre vie d'église, ce que vous avez entendu ce soir. Le premier point, la première question que j'aimerais vous poser, c'est « Désires-tu vivre sa présence ?» La deuxième question que j'aimerais vous adresser, c'est l'Église, projet de Dieu pour les hommes, qui a tant coûté à Jésus-Christ, est-elle également une priorité dans ta vie de foi? Et puis, question qui n'est pas si saugrenue aujourd'hui, quand on voit le nombre de CEFs, de sans-église fixe, es-tu rattaché à une église locale? Et pour les plus jeunes d'entre nous, mais aussi pour les plus âgés, c'est vrai que c'est souvent quelque chose que, pour lequel nous sommes en recherche dans nos premières années de foi. Est-ce que tu connais ton don? Pour chacun d'entre nous, plus jeune, plus âgé, fournis-tu ta part dans la dépendance du Saint-Esprit pour la croissance du corps? Et puis enfin, est-ce que le service fait partie de tes priorités? Voilà les quelques questions que je souhaitais vous laisser en conclusion de cet exposé. Frères et sœurs, l'Église, c'est l'occasion de vivre la présence de Jésus-Christ. Eh bien, encourageons-nous à être attachés à une église locale, à participer à cette église locale, à vivre ensemble la présence du Seigneur Jésus.